Docteur Daniel Kiri, directeur exécutif du Cercle d'études Afrique-Monde, bonjour et bienvenue.
Bonjour, Monsieur Zungrana.
Paul-Henri Damiba, désormais président du FASO, il a prêté serment le 16 février dernier. Reçu donc au cours de notre émission, Docteur Abubakar Sango affirmait que le MPSR pouvait se passer de cette cérémonie de prestation de serment. Vous, Docteur Kiri, quelle appréciation vous faites justement de cette affirmation de Abubakar Sango?
Bon, il faut préciser déjà que dans les faits, le MPSA était au pouvoir depuis le coup d'État du 24 janvier 2022. Et l'idée de prêter serment, en réalité, ne vient que constater cet exercice de fait du pouvoir d'État. Et je pense que c'est beaucoup plus par rapport à des considérations liées aux questions internationales. Pour donner, disons, un symbole au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine et de l'ONU, que bon, le régime s'inscrit dans une sorte de formalité institutionnelle, pour ne pas donner l'impression que c'est un régime d'exception qui vient de s'installer. Il faut inscrire beaucoup plus la prestation de serment dans cette dynamique.
Alors, juste après la cérémonie de prestation de serment, le lieutenant-colonel, donc désormais président du FASO, a tenu son premier discours. Vous, est-ce qu'il y a des éléments ici qui ont requis votre attention? Est-ce qu'il y a des éléments qui ont été oubliés? Ou bien vous pensez que c'est un discours à applaudir?
Il faut inscrire ça dans la logique même de la prestation de serment qui veut qu'il pose un tel acte. Et maintenant, en termes de déclaration, et un aspect quand même qui m'a semblé important, ils ont dit qu'ils ne sont pas un régime révolutionnaire. Et je pense qu'il faut mesurer la portée d'une telle déclaration. Quand on parle de révolution, bon, des gens souvent ont tendance à croire que c'est un régime d'exception qui va venir et brutaliser une partie qu'on estime être les exploiteurs du peuple et au profit de ceux qui sont exploités. C'est cette connotation-là qu'il a voulu déjà séparer en disant qu'ils ne sont pas un régime révolutionnaire. Mais dans les faits, c'est, quand on parle de révolution, le terme veut dire changement. Un changement radical, un changement profondeur, c'est ça la révolution en fait. Voilà. Mais le fait de le dire, c'est beaucoup plus pour donner des gages à l'opinion publique nationale et aussi internationale que ce n'est pas un régime révolutionnaire comme on en a connu par le passé. Et des aspects tels que la dépolitisation de l'administration, et à ce niveau, quand on parle de dépolitisation de l'administration, il y a parfois une mauvaise analyse qui est faite de la situation. Laissez-moi vous dire qu'on ne peut pas dépolitiser l'administration.
Et pourquoi cela?
Ben, quand un président vient, il va nommer les personnes avec qui il veut travailler. Il y a forcément des acquaintances politiques. On ne peut pas empêcher un chef d'État élu de nommer les personnes avec qui il veut travailler. C'est un fait. Il peut choisir de nommer des personnes issues de la société civile ou même de l'opposition, tout comme il aussi peut se fonder sur des personnes qui ont soutenu sa candidature. Le vrai problème de l'administration, ce n'est pas la politisation en réalité, c'est la compétence. Concrètement, lorsque une personne n'est pas compétente et est promue à un poste de responsabilité, ça pose un problème parce que cette personne est parfois oubliée de faire un certain prosélytisme politique. Et au besoin, en cassant toutes les compétences, en détruisant toutes les compétences pour pouvoir s'asseoir. C'est ça le vrai fond du problème. On ne peut pas dépolitiser l'administration. On peut l'annoncer, oui. Mais dans le fond, l'administration restera toujours politisée. Mais on le sentira moins lorsque un régime fait la promotion des cadres compétents. Il y a des personnes qu'on promeut à des postes parce qu'on veut effectivement que ces personnes-là financent le parti en retour. Parce que la machine électorale, la machine politique est vorace en ressources financières. Et lorsque vous êtes nommé à un poste pour pouvoir renflouer les caisses du parti, évidemment, parfois, il y a un problème éthique qui peut se poser bon, par rapport à certaines décisions que vous allez pouvoir prendre. L'idéal serait d'abord que, premièrement, on essaie au plus, au mieux de discipliner le rôle de l'argent dans l'arène politique. Deuxièmement, la promotion des compétences. Un cadre qui est compétent, vous n'allez pas sentir son bon politique, même s'il en a.
Alors, Dr. Daniel Kiri, on parle de politiser l'administration, mais qu'en est-il également de l'armée, quand on sait que pendant le procès du Puccio, on a eu à comprendre par là qu'il y avait un peu des clans au niveau du RSP et tout, et cela se répercutait un peu dans l'ensemble de l'armée. Est-ce qu'au sein de l'armée, il n'y a pas un travail aussi qui mérite d'être fait?
Je vous réponds tout de suite que oui. Et l'avantage du Burkina Faso, c'est que c'est un tout petit pays, comme on le dit, un petit pays de savane où tout le monde se connaît. Donc, de la même manière, les magouilles, les différents détournements, les fraudes qui se passent dans le milieu civil, dans le milieu politique, sont connues des militaires. On peut également dire que dans leur milieu également, ce qui se passe là-bas est bien connu aussi des civils. Voilà. Et parfois, ça va ensemble. S'il y a des problèmes de corruption dans le monde politique, cela impacte le milieu et des forces de défense et de sécurité. Et quelle légitimité, par exemple, le MPSR dispose pour pouvoir traquer les corrompus dans l'administration publique ou dans le milieu politique? Il faudrait d'abord qu'il y ait une cure dans l'armée. Que les différents audits qui ont été commandités par le président Kabore, et notamment la situation d'INATA, et les dizaines ou les centaines de milliards qu'on a injectés dans l'armée depuis 5 ans, qu'on y ait un doute très clair sur l'utilisation de ces fonds-là. Si déjà ce travail est fait au niveau de l'armée, vous allez voir que les civils vont commencer à trembler. Donc la vertu d'abord d'être imprimé dans ce corps-là et être transposé plus tard dans les autres corps. Et je poursuis, même la société civile, le monde associatif n'est pas là pour soutenir un président ou bien pour soutenir un opposant politique. Les associations qui ont soutenu l'avènement du MPSA gagneraient à lui rendre œuvre utile en faisant des propositions concrètes, notamment en termes de création d'emplois, en termes de développement, en termes de démocratie, et non pas organiser des marches meetings pour soutenir. Ils n'en ont pas besoin. Si vous voulez organiser une marche pour soutenir, disons, un président, il faut beaucoup de ressources financières pour ça. Ce n'est pas un acte qui est sincère. Et la vraie légitimité, la vraie popularité d'un homme politique, c'est quand il est en difficulté. C'est pas quand il est au pouvoir.
Donc pour vous, la solution, c'est quoi, Philippe?
La solution, en fait, c'est beaucoup plus le système politique qu'il faut réformer, pas seulement les textes. Laurent Gbagbo avait proposé une idée, en tout cas avec un peu de recul, je me rends compte qu'elle n'est pas si mauvaise. Est-ce qu'on est obligé de proposer que le président soit élu par un suffrage universel direct? On peut revenir un peu à un suffrage indirect par l'Assemblée nationale. C'est un exemple que je donne. Deuxièmement, il faut un peu rehausser le niveau, disons, de candidature de ceux qui veulent, par exemple, être députés ou conseillers municipaux. Je ne veux pas dire que j'ai le monopole des bonnes propositions.
Mais je dirais que différentes propositions.
Il faut réformer beaucoup plus le système. Parce que si on réforme juste les textes, on fixe des peines et autres, là, ça ne changera rien. Après la transition, le même système va revenir et la même politique va se réinstaller.